Dans l'actualité des idées aujourd'hui, passion et dissuasion nucléaire. Le monde a les nerfs à vif, la guerre à la bombe aura-t-elle lieu? Alors que les récentes négociations entre Donald Trump et Kim Jong-un ont échoué, le philosophe Jean-Pierre Dupuy revient au fondement du principe de la dissuasion nucléaire et à ce paradoxe qui voudrait que pour ne pas faire la guerre, il suffirait de la mimer. En étant encore capable, Jean-Pierre Dupuy est l'invité de la deuxième partie de notre grande table. Avant cela, comment écrire le roman d'une identité atomisée? 10 ans après la mort de l'intrigante nounou photographe, comme on l'a appelée, Gaëlle Josse publie Une femme en contre-jour, où Viviane Meyer apparaît dans tous ses mystères. Remontant le fil de sa vie, elle profite pour poursuivre son exploration des chemins d'absolu et redire son amitié pour les artistes secrets.
La grande table. Marie Richelieu.
Hi Carl.
Hi.
I got you with my machine. I was wondering if you had anything to say about all this political scene.
Well,
about Nixon and so on.
I think that it happened the way it should for the best of the country.
And that maybe it'll be a warning for future politicians.
That's right, that's right.
Et c'est un extrait du documentaire de Charlie Siskel et John Malouf, Looking for Viviane Meyer, qui nous rappelle qu'elle ne s'est pas contentée de réaliser plusieurs dizaines de milliers de clichés photographiques. Elle enregistrait aussi la rue et ici une conversation à la caisse d'un supermarché. Si les photographies de cette femme mystérieuse ne comportent presque jamais de légende, c'est précisément de la légende que vous vous approchez par la fiction. Gaëlle Josse, Une femme en contre-jour, c'est le titre du roman que vous publiez aux éditions Notabilia. Bonjour à vous et bienvenue.
Bonjour, merci.
Je vais signaler tout de suite que se tient en ce moment même à la Galerie Les Douches à Paris jusqu'au 30 mars une exposition qui s'appelle Color Work et que le livre du même titre paraît aux éditions Harper Design et Inter Art. Et puis, parce que l'actualité est généreuse en matière de Viviane Meyer, que Mathilde Serrel a consacré un de ses podcasts anachroniques culturels à Viviane Meyer et c'est à retrouver sur franceculture.fr. Alors je disais Gaëlle Josse, vous vous intéressez à la légende et vous la prenez avec ce roman presque par le bout puisque la première scène de ce roman, c'est une scène d'effacement, c'est une scène de photographie qui devient floue. Est-ce que c'est une pure invention de romancière ?
Pure invention, je ne saurais pas dire parce qu'en fait, je n'ai pas inventé grand-chose dans ce livre. Je ne suis pas très à l'aise, pour tout vous dire, avec ce qu'on appelle les biographies romancées. Voilà.
Je ne l'ai pas dit, vous avez vu, hein, me suis abstenue.
Tout à fait, c'est moi qui le dis. Voilà, l'idée de distordre en fait une vie qui a été, hein, qui a été une vie de chair, de sang, pour la transformer en une vie de papier répondant à la seule fantaisie de l'auteur, ça m'embarrasse un petit peu. Moi, j'ai plutôt essayé de traquer les traces, le peu de traces qu'on a et de relier un petit peu les pointillés pour essayer de comprendre cette femme de l'effacement. Et en effet, j'ai souhaité ouvrir le livre par la scène qui va préluder à sa disparition, la scène de l'accident à partir duquel elle va glisser et mourir, parce que je ne voulais pas raconter une histoire à suspense, voilà, avec la naissance, la vie, la vieillesse, la mort. Je trouvais ça un petit peu, peut-être un petit peu classique pour elle, et je ne voulais pas qu'on mette du suspense dans une histoire. Donc j'ai préféré en effet commencer par la boucle du destin qui se termine, hein, puisque la vie est peut-être un cercle. Et donc, j'ai commencé par l'endroit où le cercle se referme.
Et c'est une scène où, en effet, Viviane Meyer disparaît. Vous écrivez même, Gaëlle Josse, que c'est une photographie qu'elle aurait presque pu prendre. L'image d'une vieille femme comme ça, dans un parc, qu'on imagine démente, qui part dans un cri et qui va vers son hospitalisation. Scène de départ, et puis ensuite, vous déroulez le fil, Gaëlle Josse, avec le début d'une légende qui commence avec la découverte d'une œuvre monumentale, mais caché. Alors il faut quand même raconter un petit peu ça. Qui découvre quoi et comment?
Oui, parce que l'histoire s'apparente un petit peu à une belle histoire. Je ne sais pas s'il faut dire un conte de fées, parce que pour elle, la vie n'en a pas été un. Mais pour son découvreur, pour l'inventeur, en fait, mythe de Vivian Maier au sens de l'inventeur du trésor puis de la légende. Il s'agit de cet homme, un agent immobilier qui à ses moments perdus, cherche à écrire un livre sur les quartiers de Chicago et qui va acheter pour $400 un ensemble de cartons dans une vente, qui ne va pas y trouver ce qu'il cherche, qui va les refermer. Et puis qui va quand même de temps en temps les rouvrir et qui va se trouver confronté à des milliers de photos, de pellicules non développées, voilà tout un fatras de choses. Et ces photos vont quand même attirer son regard, même s'il s'avoue de lui-même complètement ignare, béotien, néophyte en matière de photos. Puis comme il a aussi envie un peu de récupérer sa mise, qui l'aimerait bien savoir ce que ça vaut. Ce qu'il a trouvé, il va les poster sur des réseaux sociaux et il va en vendre aussi. Et les retours sont évidemment élogieux, dithyrambiques, enthousiastes. Donc, il va comprendre qu'en fait, il a trouvé un trésor. Il a de l'or entre les mains. Et à partir de ce moment-là, il va employer toute son intelligence, son énergie, ses moyens pour faire reconnaître au monde entier, à l'Amérique tout d'abord, ce trésor qu'il a trouvé. Alors ça ne va pas être forcément simple, parce qu'il va se heurter un peu à l'establishment du monde photographique, qui refuse de reconnaître quoi que ce soit dans ses photos.
Alors il faut dire la raison de ce refus.
Pour plusieurs raisons. Pour une raison d'ailleurs qui n'est pas inintéressante, c'est d'abord une question d'éthique. Est-ce qu'à titre posthume, on a le droit de créer une œuvre ? Ça se discute, comme on dit. Et puis aussi parce que dans l'œuvre photographique, le tirage fait partie de l'œuvre. Or, Vivian Maier a très peu tiré de photos. Elle les tirait dans sa salle de bain transformée en labo quand elle avait la place nécessaire chez les gens chez qui elle travaillait, puisqu'elle était bonne d'enfant, employée de maison. Et ces photos tirées ne sont pas d'excellente qualité. Voilà. Donc lui a fait faire des tirages, a fait des choix. Donc il a procédé à une recréation de son œuvre, ce qui a soulevé des réticences, des questions. Et puis il a quand même décidé de jouer son va-tout en mettant ça sur le marché, en créant une grande exposition. Et là, quand on a découvert le regard de cette femme sur le monde, sur les êtres, sur cette humanité poignante qu'elle a saisie tout au long de sa vie, accompagnée de cet halo de légende, puisqu'il s'agissait d'une disparue, là je crois que tout le monde a été conquis.
Il faut dire, et vous le racontez, ça prend une place importante dans votre roman, Gaël Josse, la rencontre que fait cet homme avec les derniers enfants devenus adultes qu'avait surveillé, oui, gardé, pour ne pas dire élevé, cette femme Vivian Maier, et qui participe presque à refaire le puzzle de l'identité, puisque pour construire l'œuvre posthume de Vivian Maier, photographe, il va avoir besoin, ils vont tous avoir besoin de construire la femme.
Tout à fait, c'est pour ça que lui aussi est parti un peu par la fin, par l'œuvre, pour remonter sur qui a pris ces photos. Et on a quelque chose qui est de l'ordre du palimpseste, puisqu'il trouve un jour sur une enveloppe un nom au crayon de papier, Vivian Maier. Donc il s'interroge et il va sur Internet et la seule occurrence qui sort, c'est une femme qui vient de décéder à Chicago avec un avis d'obsèques, une petite note nécrologique. N'ayant rien à perdre, il va prendre contact avec les auteurs de cette note, dont il va découvrir qu'il s'agit des trois frères qu'elle a élevés pendant presque une vingtaine d'années, et qui très tardivement l'ont redécouverte eux aussi, alors qu'elle est tombée dans la misère quasiment la plus totale, et ils vont prendre soin d'elle jusqu'à sa mort, jusqu'à ses derniers jours. Donc il va les contacter et en effet, c'est bien eux, c'est bien elles. Donc là aussi, il va remonter les traces pour cerner un petit peu l'identité de cette femme dont on ne connaît en fait que le regard.
Alors, il faut dire que cette femme, malgré l'accent français, n'est pas du tout née en France. Elle a une relation très forte avec la France. Vous l'écrivez, Gaëlle Josse, mais elle naît en 1926. On est complètement aux États-Unis. Il va y avoir des allers-retours entre New York et Chicago, oui, où elle va finir par, en effet, être hospitalisée et mourir. Ce lien avec la France est un lien douloureux. C'est aussi un lien qui presque est le miroir du lien douloureux avec ses deux parents. Pourquoi est-ce que ça a été quelque chose de nodal dans l'écriture du roman que vous lui consacrez?
Parce que j'ai découvert que cette femme, donc en effet, qui est née aux États-Unis, mais qui est enfant d'immigrants, même de deux branches d'immigrants, sa mère immigrante française, son père immigrant austro-hongrois.
Métaphore totale du rêve américain.
Absolument, absolument. Du rêve et aussi de l'envers du rêve américain. Et toute son œuvre, c'est aussi cet envers du rêve qu'elle va montrer. Donc un tropisme très fort avec la France, puisque très jeune, sa mère, dont la vie, on va dire, n'est pas vraiment un enchantement, avec un mari violent, alcoolique, elle va fuir en France. Donc pour elle, effondrement du rêve américain. Elle va reprendre le bateau dans l'autre sens avec sa fille très très jeune. Et finalement, Vivienne Maier va passer toute son enfance dans ses enchanteurs, dans les Alpes de Haute-Provence. Et il semblerait que ce soit peut-être les années les plus heureuses de sa vie. Et qu'elle en garde une immense nostalgie, puisque par deux fois, elle va y revenir.
Et elle y reviendra un jour très important pour elle, puisque c'est le jour de l'héritage.
Absolument.
Évidemment, ce sera chahuté, comme tous les héritages, oui, que ce soit en France, aux États-Unis ou ailleurs. Mais c'est de cet héritage qu'elle va acheter le fameux relais flex dont elle rêve depuis, voilà, longtemps. Et puis vous faites une sorte d'hypothèse romancée, hein, à partir de quoi elle va commencer à faire des milliers et des milliers de photographies sans les développer. On va écouter, si vous le voulez bien, Gaëlle Josse, l'archive d'un autre grand photographe.
Je voudrais savoir comment vous êtes devenu photographe.
Eh bien, pendant très longtemps, je n'aimais pas du tout la photo, j'ai jamais fait la photo, jusqu'à peu près à l'âge de 30 ans. Mais je me suis beaucoup promené à Paris, surtout la nuit, et alors je me suis demandé comment je pourrais saisir ces choses, et quelqu'un m'avait prêté un appareil, et c'est comme ça que je suis devenu photographe, en commençant à faire des photos de nuit.
Et ces photos de nuit sont devenues une spécialisation?
Non, je trouve qu'il n'y a pas de spécialisation. On se spécialise pour le moment, chaque fois pour la chose qu'on veut faire, on est spécialiste. Mais après, en ayant épuisé le sujet, on n'est plus spécialiste.
Vous faites confiance au hasard?
Oui, je trouve que le hasard vous donne des choses beaucoup plus intéressantes et je préfère toujours trouver des choses que de les chercher.
1952, la voix de Brassailles qui répond aux questions de l'émission Paris vous parle sur la RTF, une archive RTF. Gaëlle Josse, c'est un peu l'interview à laquelle n'a jamais répondu Vivienne Maier sur ses propres photographies. L'une des questions que soulève votre livre et l'établissement d'une œuvre posthume, c'est la formation de son œil. Comment a-t-elle appris à regarder? Comment a-t-elle appris à cadrer des images? Comment gère-t-elle la distance avec ses modèles, puisque la plupart du temps elle se cache pour le faire? Plusieurs hypothèses, dont lesquelles dans votre livre, Gaëlle Josse?
Oui. Il semblerait que depuis l'enfance, une amie proche de sa mère et de sa grand-mère était une photographe reconnue et qu'elle ait joué un rôle peut-être de mentor inconscient, tout du moins du modèle d'une femme et d'une familiarité avec le regard, avec l'appareil photo, et que Vivienne Maier ait un petit peu elle-même suivi ces traces et ce modèle. Et je crois qu'il y a surtout chez cette femme une insatiable curiosité du vivant, curiosité de l'autre.
Elle dit « ouvrez les yeux, le monde est partout ».
Absolument. Et ce que dit Brassailles, c'est merveilleux. Voilà, il préfère trouver les choses plutôt que les chercher. Et chez Vivienne Maier, je crois que c'est un peu ça. C'est les yeux ouverts, l'appareil photo en attente, prêt à capter le vivant là où il est, dans la rue, puisqu'elle est avant tout une photographe de rue. Et ce qui est absolument fascinant, c'est quand on connaît en plus le maniement assez mal commode d'un relais flex, donc pas le droit à l'erreur, c'est son sens absolu du cadrage, son sens absolu de l'instant, et surtout, moi, ce qui me touche beaucoup, c'est son sens du portrait. Voilà. Le portrait chez elle, c'est quelque chose qui, je dirais, qui rejoint l'autre vraiment jusqu'au tréfonds de son âme.
Alors il faut parler, Gaëlle Josse, de la spécificité de ces autoportraits, parce que parmi les milliers de photographies, il y a des photos d'elle. Mmh. Mais seulement, votre roman signale combien elle n'apparaît dans ces photos que par un bout de chapeau, que par un petit bout de visage. Bref, comme si elle-même considérait son identité comme devoir se recomposer qu'à partir d'indices.
Oui, c'est vrai qu'il y a chez elle cet effacement, cette dissolution, cette atomisation, où elle va passer sa vie finalement à se montrer et aussi à se cacher, et que ses autoportraits n'ont rien de narcissique. C'est quelque chose d'à la fois très frontal pour certains d'entre eux et très métaphorique, parce qu'on va la deviner en effet dans un angle avec une ombre, un chapeau, dans un bouton de porte, dans un rétroviseur.
Elle joue presque.
Elle joue, oui, et un sens de la, je dirais, de la mise en scène, de l'installation photographique également extrêmement élaboré pour cette femme qui n'a que son œil comme formation. Et c'est cette dissolution de l'identité, cette multiplication des identités qui est quand même très, très troublante chez elle.
Est-ce que ça vous a donné du fil à retordre? Parce que tout à l'heure, vous disiez, je suis un peu embêtée avec cette histoire de biographie romancée. Et puis on sent bien même que dans votre texte, que ce soit par des formules consacrées au début ou par vraiment une sorte de micro-essai à la fin du roman, vous vous demandez qu'est-ce que c'est que d'écrire la vie de quelqu'un qu'on n'a pas connu, qui lui-même a refusé de laisser des traces. Qu'est-ce que c'est que cette entreprise littéraire? Alors, ça vous a fait travailler à partir de quelle source et presque avec quelle énergie, Gaëlle Josse?
Mais je dirais que c'est très intimidant d'entrer, littérairement parlant, dans la vie de quelqu'un.
Par quelle porte vous l'avez voilà. fait? Par quel document?
Comment est-ce qu'on va la raconter, cette vie? Pourquoi on va la raconter? Avec quelle honnêteté, avec quelle subjectivité, puisqu'il y a toujours quand même cette tension inévitable entre les deux. Alors évidemment, il y a le documentaire de Finding Vivian Maier de John Malouf qui est essentiel, mais qui fait assez peu référence à son histoire familiale. Donc pour son histoire familiale...
Qui est composée, il faut le dire, juste de beaucoup de témoignages de personnes qu'elle a rencontrées, d'enfants qu'elle a précédemment gardés, qui met en scène une figure très troublante, inquiétante parfois.
Oui, très double. Donc une multiplicité de témoignages, d'indices, de traces que j'ai essayé de remonter donc jusqu'à l'enfance pour reconstituer l'histoire. Et ce qui m'a beaucoup frappée notamment, c'est le regard très, très contrasté que les uns et les autres portent sur elle. Pour certains, elle a été l'aube, le soleil, la révélation de leur
grain
vie,
de folie dans leur existence.
Le grain de folie, la lumière de leur existence. Pour d'autres, elle a été une femme dure, terrifiante, voire méchante avec les enfants qu'elle gardait. Il y a des témoignages qui font un peu, qui mettent quand même très très mal à l'aise, où on est quand même dans une certaine forme de maltraitance, on peut dire ça. Donc, des regards extrêmement contrastés sur une même personne. Donc là aussi, où est la vérité? La vérité est multiple. Hein. Cette femme, elle est, comme nous tous peut-être, un personne et 100 000. Donc voilà, d'essayer d'approcher cette entité et jusqu'à ce point d'effacement, puisqu'en fait ce qui m'a quand même beaucoup passionnée, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est cette perdante magnifique qu'elle est. J'ai beaucoup d'affection, d'intérêt, de tendresse pour tous ces artistes de l'effacement qui se sont mis en retrait, soit artistiquement, soit socialement, et qui ont mis une œuvre et une œuvre fabuleuse en avant. Wovon
Peut-être qu'écrire comme tout acte de création n'est rien d'autre que de marcher dans un tremblement de terre, le sol ouvert sous les pieds, d'avancer dans les décombres, dans le dévasté, dans le feu et le bruit. C'est convoquer la mémoire des morts, appeler sur nous des lambeaux de notre histoire et de l'histoire de tous les hommes. Gaëlle Josse, c'est un extrait de votre texte, Une femme en contre-jour aux éditions Notabilia, juste avant un Lied de Schubert pour essayer de relier un petit peu l'ensemble de votre travail. Vous le disiez, moi ce qui m'intéresse, ce sont les effacements. À la fin de ce texte-là, vous revenez sur vous-même. C'est-à-dire que c'est à la fois tout un texte sur Vivienne Meyer, mais on le sent bien, une propre interrogation de votre chemin d'absolu.
Oui, c'est vrai que ces artistes de l'effacement qui sont en dehors du jeu social, qui, je dirais, qui n'existent pas socialement, qui n'ont pas ou peu été reconnus de leur vivant. Je pense à Schubert qui n'a jamais entendu jouer la plupart de ses œuvres, comme Vivienne Meyer n'a jamais vu ses propres photos. Ça me questionne énormément.
Parce que vous citez aussi Mandelstam, enfin on voit bien qu'il y a une sorte de population d'artistes comme ça qui peuplent votre tête et qui, je parlais tout à l'heure de compagnonnage de ces artistes secrets, de sorte de chemin commun, de chemin de l'absolu, qui est une sorte de foule d'amis, vous diriez, Gaëlle Josse, lorsque vous mettez au travail.
Oui, tout à fait. Ce sont des compagnonnages qui me sont très, très, très proches. Et c'est toujours là, dans la création, la tension entre l'ego et l'effacement, c'est quelque chose qui se pose. Voilà, où suis-je, moi, dans cette histoire que je vais raconter? Quelle part de moi je vais imposer au lecteur? Quelle part de moi je vais cacher? Quelle part de moi je vais transposer? C'est une question qui se repose à chaque livre. Et là, il me semblait que dans cette histoire, qui est l'histoire donc de cet invisible, de cet effacé, de cette perdante, je n'avais pas, moi, à m'imposer plus que nécessaire. C'est pour ça que j'ai simplement gardé sur quelques pages à la fin, pour le lecteur qui en a l'envie, pour dire pourquoi j'ai raconté cette histoire, en quoi elle me touche et en quoi elle interroge mon chemin d'écriture.
En même temps, on a l'impression, plus que ça, Gaëlle Josse, que c'est un acte de responsabilité que de dévoiler le projet. C'est-à-dire que, finalement, quel serait ce livre si vous n'étiez pas en mesure vous-même de dire pourquoi vous vous mettez sur la piste de Vivienne Meyer? Parce qu'en fait, elles sont nombreuses et nombreux. Ceux qui la cherchent aujourd'hui, ceux qui vendent ses photographies, ceux qui les exposent, ceux qui publient, donc il faut bien faire un geste singulier au milieu de tout ça.
Oui, c'est un geste à la fois de curiosité, un geste d'intérêt, un geste de respect, puis peut-être quelque part aussi un geste d'amour pour cette femme qui a photographié le monde et à qui rien n'a jamais été donné en retour.
Vous dédiez ce livre à ceux qui ne sont rien. Difficile de ne pas entendre une déclaration du président Emmanuel Macron. Qu'est-ce que Vivienne Meyer a photographié, sans parler d'elle, mais là, parlons de ses images, qui vous permet de le faire?
Alors, ce qui interroge dans ces photos, c'est ce qu'il y a dans le champ, bien sûr, et puis tout ce qu'il y a dans le hors-champ. C'est-à-dire le monde des démunis, le monde des fracassés, le monde des pauvres, le monde de ceux qui manquent de tout, le monde de ceux qui, socialement, n'existent pas. Elle les a montrés, Elle leur a donné un visage, une identité, une dignité et aujourd'hui une mémoire. Ça, je crois que c'est très important.
Qu'est-ce que ça vous fait de voir ces images exposées? Je disais tout à l'heure, par exemple, en ce moment, il y a une exposition à la Galerie des Douches à Paris jusqu'au 30 mars. Quelle spectatrice êtes-vous de ces images désormais que vous avez écrit ce livre?
Une spectatrice qui s'interroge quand même sur tout ce, comment dire, ce monde d'affaires qui s'est monté aussi autour d'un nom et sur ce succès planétaire qui est, voilà, aujourd'hui aussi éclatant que sa vie a été obscure. C'est très troublant.
Vous voulez dire quoi? Que c'est révélateur du monde dans lequel nous vivons? Vous allez même jusqu'à dire, nous qui ne savons pas faire avec nos fous, nos vieillards et nos pauvres,
oui.
On sait très bien faire des sous?
Oui. Tout à fait. Et puis, en même temps, on montre quelque chose, on montre un regard qui est unique, qui est plein d'humanité. Et j'espère que c'est avant tout ça qui touche celui qui va les regarder.
Alors, on mettra le lien vers l'exposition des douches à Paris. Je rappelle le titre de votre livre, Une femme en contre-jour. C'est paru aux éditions Notabilia. Et puis, bien sûr, l'anachronique culturelle de Mathilde Serrel. Merci beaucoup, Gaëlle.
Merci à vous.
Il est bientôt midi 29.